Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être brisé.
La loi de la transformation. Alléluia. Alors jusqu'à ce jour, dans le cadre de l'école de leader, nous avons appris beaucoup de lois. Parce que l'école de leader, dans cette première session, en fait s'inscrit dans le cadre de l'enseignement des lois du leadership dans l'église. Et donc nous avons appris plusieurs lois. La première loi que nous avons appris, c'est la loi de l'obéissance, la soumission, la loi du service. Alléluia. Donc ces trois lois, nous les avons développées en parlant donc de l'histoire de d'Adonija. Et nous avons parlé donc la loi de l'accession à la royauté, qui intègre les principes de la soumission, les principes de l'obéissance à l'autorité que Dieu a établie, donc le principe de l'autorité spirituelle. Alléluia. Et donc après nous avons parlé de la loi du royaume, la loi de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères, mais l'amour aussi pour son œuvre. Alléluia. Donc nous avons parlé des quatre dimensions de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Alléluia. Et la dernière fois, nous avons parlé de la loi de l'intimité avec le Seigneur. Nous avons dit qu'en fait, un leader doit avoir une relation d'intimité avec son Dieu. Parce que Dieu nous confère, en fonction de notre dimension d'intimité avec lui, des sphères d'influence et d'autorité, des sphères de domination. Nous ne pouvons pas gouverner un foyer, une maison, si nous ne savons pas gouverner notre propre vie. Alléluia. Quand nous aurons réussi à gouverner notre propre vie, alors Dieu nous donne une autre sphère de gouvernement, une autre sphère d'influence, une autre sphère de domination. C'est la sphère du foyer, la sphère de la maison, sa propre maison. C'est pourquoi nous avons dit dans ce cadre que Dieu ne peut pas te donner un mari, Dieu ne peut pas te donner une femme, si au départ tu n'as pas su gouverner ta propre vie. Alléluia. Donc, nous avons parlé du gouvernement de soi, et ensuite nous avons parlé du gouvernement de notre foyer, de notre maison. Lorsque nous avons réussi à gouverner notre maison, à influencer donc notre maison par l'autorité de Christ, à dominer selon que Christ nous amène à dominer dans les champs d'influence qu'il nous confère, si nous avons réussi à dominer notre propre maison, alors Dieu nous donne donc de dominer, donc d'influencer, de régner sur l'Église. Parce que la Bible déclare que quelqu'un ne peut pas diriger l'Église de Christ s'il ne sait pas d'abord diriger sa propre maison. Alléluia. Et le but de Dieu, c'est ça. Il nous a créés pour influencer, pour gouverner, pour diriger, pour régner, pour dominer. Alléluia. Et donc la domination et l'influence spirituelle, le gouvernement est relatif à notre dimension d'intimité avec notre degré de relation personnelle avec le Seigneur. On a vu que lorsque nous sommes capables maintenant de gouverner l'Église de Christ, Dieu nous donne de gouverner un champ d'influence plus large, une sphère plus élargie. Il nous donne de gouverner la ville. Et quand nous avons réussi à gouverner la ville, à imposer l'autorité de Christ dans la ville, à régner sur la ville, alors Dieu nous donne une autre sphère d'influence, une autre sphère de gouvernement, une autre sphère de domination, c'est la nation. Alléluia. Et quand on a réussi effectivement à influencer la nation, à amener le règne de Christ sur la nation, à étendre la domination de Christ sur la nation, alors Dieu maintenant nous donne de gouverner les nations de la terre. Alléluia. Donc tout cela est en fonction de notre relation personnelle avec Dieu, de notre intimité avec Dieu. Et nous avons vu dans le cadre de la loi de l'intimité avec le Seigneur que tous les héros de la foi, tous les grands leaders que Dieu a appelés ont une caractéristique commune, c'est que chacun avait une relation personnelle avec le Seigneur. Il rencontrait Dieu dans le cadre d'une relation personnelle avec le Seigneur. Lui, il était important que chacun d'entre nous, en tant que leader, puisse apprendre à développer une relation personnelle avec le Seigneur qui soit de plus en plus intime et un peu plus profonde chaque jour au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers du jeûne de la prière, au travers d'une consécration un peu plus profonde chaque jour, au travers vraiment de l'adoration, de la louange, de l'affection, de la présence de Dieu. Alléluia! Et après donc avoir parlé de la loi de l'intimité avec le Seigneur, alors j'ai ouvert une parenthèse aussi sur la révélation de l'Arche de l'Alliance un enseignement que nous avons commencé, que nous allons finir après, parce que le Seigneur nous a demandé d'arrêter d'abord cet enseignement pour l'instant. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, nous parlerons de la loi de la transformation. Alléluia! Donc, nous allons continuer dans cette série des lois du leadership dans l'Église, parce que l'objectif, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est que nous soyons transformés. Transformés à l'image de Christ. Alléluia! C'est pourquoi ce soir, nous parlerons de la loi de la transformation. Amen, amen. Ça va pour tout le monde? Gloire à Dieu. Alors, la loi de la transformation. J'ai cherché la définition du mot transformation et je me suis aperçu d'une chose qui est incroyable. C'est que la transformation ne veut pas dire changement. Un changement, c'est une repentance. Le mot changement vient de métanoïa, ça veut dire un changement de conception, de mentalité, et qui peut se traduire par un comportement. Mais surtout, changement inclut la notion de décision. Je prends la décision de changer. Le changement intervient beaucoup plus dans la dimension de la repentance. Parce que la repentance n'est pas avant tout une émotion, mais une décision. Donc, lorsque je décide de changer, en fait, je suis en train de me repentir. Je change de direction. Quelqu'un peut changer sans être transformé. Je prends un exemple. Quelqu'un se marie et autrefois, il vivait d'une certaine manière. Il avait ses principes, il avait ses règlements et il se permettait de faire certaines choses. Le fait d'avoir changé de statut, d'être passé d'un statut de célibataire à un statut de marié, entraîne dans sa vie un changement de statut qui conduit à un changement de comportement. Il ne se permet plus certaines choses qu'il faisait autrefois. Pourquoi? Parce que maintenant, il a changé de statut, il est rentré, il est passé d'un cadre de célibataire à un cadre de marié. Il est passé d'une sphère dans laquelle il vivait à une autre sphère. Il est passé d'une sphère de célibataire à une sphère de vie conjugale. Donc, autrefois, il avait une marge de manœuvre, il avait un champ d'action un peu plus large, il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il vivait seul. Maintenant qu'il est marié, il a un cadre beaucoup plus restreint de liberté. Parce qu'il va apprendre à faire des concessions. Il va apprendre à tenir compte de l'opinion de l'autre. Il va apprendre à tenir compte de l'avis de l'autre. Il va apprendre à tenir compte des principes de l'autre. Il va apprendre à tenir compte de la culture de l'autre. Il va apprendre à tenir compte de l'éducation de l'autre. Donc à partir de ce moment, il est amené à faire des concessions. Il est amené à faire des restrictions. Il est amené à observer des principes et des règles qui n'étaient pas forcément dans le cadre de ses principes à lui, de ses règles à lui, de sa façon de voir les choses, de ses conceptions à lui. Alléluia! Cette personne va changer. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la personne est transformée. Et nous allons remarquer que dans beaucoup de milieux, dans nos sociétés par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont changé du fait d'une circonstance, qui ont changé du fait d'un nouveau mode de vie, qui ont changé du fait d'avoir changé peut-être de milieu, de pays. Ils ont changé. Mais en réalité, ces personnes ne sont pas transformées. Je vous prendrai l'exemple d'un frère que j'ai connu qui était un frère très motivé dans la foi, très zélé et à qui on a confié beaucoup de responsabilités dans l'œuvre et qui prêchait même très bien, qui apportait de très bons enseignements et qui a été une source de bénédiction pour plusieurs au niveau de l'Église. Alors ce frère, ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement occupé à servir Dieu que lorsqu'il a eu un temps de vacances, il est parti dans son village, en campagne. Et là, il n'avait plus de temps. Il n'était plus chargé. Il n'était plus occupé. Donc, du coup, il se retrouve devant lui avec un temps libre, avec beaucoup de temps libre. Un temps qui, autrefois, était occupé par les activités dans l'église. Alors là, il se retrouve en pleine campagne. Il n'y a plus l'église. Il n'y a plus les frères. Il n'y a plus le pasteur. Il se retrouve seul. Et ce qui se passe, c'est que là, dans ce milieu-là, c'est que finalement, ce frère se surprend lui-même en train d'aimer des choses qu'autrefois, il n'aimait pas. Il commence à être attiré par la convoitise du monde. Il commence à être attiré par les amis, les vacanciers qui sont venus passer des vacances là, dans la campagne. Il commence donc à être attiré par leurs activités. Il commence à être attiré par leurs ambiances. Il commence à être attiré par leurs mouvements. Et là, il se retrouve en train de boire, de s'enivrer d'alcool, il se retrouve en train de commettre la débauche, d'aller avec d'autres femmes, il se retrouve dans une situation de péché, alors qu'autrefois, c'est quelqu'un qui vivait dans la sainteté. Et il se retrouve donc dans une situation de péché, pour lui, en tant que responsable d'église, en tant que prédicateur de la parole, quelqu'un qui a prêché, qui a béni des milliers de personnes. Et Lorsque nous avons appris cela, j'ai essayé de réfléchir sur la situation de ce frère. Et en réfléchissant, je crois que le Saint-Esprit m'a éclairé sur un point. Il m'a dit, ce frère avait réellement changé. Pendant tout le temps de l'année scolaire, lorsqu'il était à l'église, qu'il servait Dieu, qu'il prêchait, qu'il bénissait les frères, qu'il était vraiment dans l'activité, il était vraiment un frère qui avait changé. Il avait complètement changé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans son être intérieur, dans son âme, dans ses pensées, dans son mode de pensée, dans ses conceptions, dans ses principes, et dans son être intérieur tout entier, cette personne n'était pas transformée. Voilà pourquoi lorsqu'elle se retrouve dans un autre milieu, sa nature véritable refait surface. Et elle se rend compte que finalement, elle avait changé, mais n'était pas transformée. Un exemple très éloquent pour nous montrer, pour nous révéler qu'il y a une différence entre un changement et une transformation. Alléluia! Je vais prendre un autre exemple. Je prends cette feuille. Alors, je la froisse. Je la froisse complètement. Je la froisse et je mets une couleur dessus. Alors, je vous la donne. Est-ce que cette feuille a changé, oui ou non? Elle n'a pas changé. C'est toujours une feuille. Alléluia! C'est toujours une feuille. Malgré le fait que je l'ai froissée, malgré le fait que je lui ai mis des couleurs autres que blanches, elle reste une feuille. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Alléluia! Mais par contre, elle a changé de forme. Elle est toujours une feuille, mais elle n'a plus la même forme. Alléluia! Donc c'est ça la transformation. Transformation veut dire changer de forme. Et qui veut dire changer de forme, dit passer par un moule. Parce que c'est le moule qui nous confère une forme. Transformation vient de transforme. Donc changement de forme. Alléluia! Qui est différent d'un changement de comportement tout simplement. Parce que je peux changer de comportement sans être transformé. L'apôtre Paul peut dire par exemple que si un aliment est pour ton frère une occasion de chute, ne mange pas cet aliment. Donc pour être en conformité avec les règles d'un certain milieu, avec les us et coutumes d'un certain milieu, je peux me conformer à ce milieu. Je peux ne pas faire certaines choses parce que le milieu m'impose de faire certaines choses. Donc je change mon comportement, je change mon mode de vie en fonction du milieu dans lequel je me trouve, en fonction de la culture dans laquelle je me trouve, en fonction de la société dans laquelle je me trouve. Mais ça ne veut pourtant pas dire que je suis transformé, parce que la transformation sous-entend un changement de forme. Je peux garder mon identité intérieure, ma personnalité intérieure, mon mode de pensée, mes conceptions, mes valeurs, mon éducation et ma culture, et changer sur le plan extérieur pour m'accommoder avec le milieu dans lequel je me trouve, pour ne pas être en marge, pour ne pas léser qui que ce soit, pour m'adapter, être flexible. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, avec les païens, je suis païen, avec les juifs, je suis juif, avec les gentils, je suis gentil, vous comprenez? Donc la flexibilité, on peut avoir une capacité de flexibilité, d'adaptabilité humaine, qui ne veut pourtant pas dire que nous sommes transformés, que nous avons changé notre forme intérieure, notre identité personnelle. Les comédiens, par exemple, les artistes, sont des super champions pour être sur scène des gens complètement différents de ce qu'ils sont en réalité. Ce sont des acteurs. Donc, pour une circonstance bien précise, dans un cadre bien précis, ils changent. Ils ne sont plus les mêmes. Mais cela ne veut pourtant pas dire qu'ils sont transformés. Alléluia! Maintenant, nous allons lire ce que le dictionnaire biblique nous enseigne sur ce que c'est une transformation. Comment le dictionnaire biblique définit la transformation? Donc, transformation vient du mot transformer. Donc, être transformé. Qui veut seulement désigner le changement intérieur ou extérieur de quelqu'un. Dans Romains chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul exhorte à tous les croyants à ne pas se conformer au monde, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il veut dire par là qu'au lieu d'adopter les valeurs, le comportement et les aspirations d'un monde corrompu, les croyants doivent tendre à un renouvellement constant de leur être intérieur par la prière et l'étude de la parole de Dieu, afin de pouvoir discerner en toutes choses la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre Paul parle de la transformation opérée en nous par l'Esprit de Dieu lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ. Donc lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ, la Bible nous révèle dans ce passage que nous sommes transformés. Cette transformation nous rend progressivement à l'image de la gloire de Christ, semblable à Christ. La transformation sera parfaite, bien sûr, lors du retour de Christ. Alléluia. Nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, et il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Alléluia. Donc l'opposé de la transformation, c'est le déguisement. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait parler aux pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens qui avaient un changement dans leur comportement. Ils étaient différents des autres parce qu'ils observaient la loi. Ils observaient les principes. Mais le problème des pharisiens et des scribes, c'est quoi? C'est que ces personnes n'étaient pas transformées. Le changement est la résultante de l'observation des lois et des principes établis dans un contexte bien précis ou dans un milieu bien précis, dans un cadre bien précis. Le fait d'observer des principes ou des lois entraîne le changement. Par contre, la transformation dépasse la dimension de la simple observation des principes et des lois qui sont établis. La transformation va jusqu'à adopter un mode de pensée, une façon de concevoir. Donc ça va au-delà d'une simple observation de principes. Ça touche notre culture, ça touche notre éducation, ça touche notre mode de pensée et notre système de fonctionnement. Alléluia. La transformation touche notre caractère, notre personnalité et nos comportements. Alléluia. La transformation nous confère un état d'esprit, une attitude intérieure. Alléluia. Donc, il y a une nuance entre transformation et changement. Ça va pour tout le monde. L'avantage du changement, c'est que nous pouvons facilement nous adapter tout en gardant notre identité. Donc, l'avantage du changement, c'est que ça nous permet de communiquer, de mieux communiquer avec notre société. De ne pas être en marge, mais de nous accommoder et de mieux communiquer avec les autres. Donc, le changement favorise la communication et le relationnel au sein de la société. Alléluia. Ou au sein d'un cadre bien précis. Ça, c'est l'avantage du changement. Par contre, l'inconvénient du changement, c'est que ça développe en nous un caractère d'hypocrisie. Nous ne sommes pas toujours ce que nous sommes en réalité. Le caméléon est un animal qui change en fonction des milieux. Il prend la couleur qui correspond au milieu dans lequel il se trouve. Mais pourtant, ça ne change en rien son identité de caméléon. Il reste caméléon. Alléluia. C'est sa race. Ça ne change rien en sa race. C'est sa race. La race animale. Il reste un animal. Alléluia. Par contre, la transformation est un changement d'état. Donc, si un caméléon doit être transformé, il ne sera plus caméléon. Il aura une autre nature que la nature animale. Et c'est là la différence entre le changement et la transformation. Ça va pour tout le monde? Jusqu'à présent, nous sommes dans les définitions. Maintenant, nous allons rentrer dans le cœur de notre enseignement. Donc, en introduction, j'aimerais dire que chaque monde a ses lois, ses valeurs, sa culture, son éducation, son mode de pensée et son système de fonctionnement. Les êtres humains prennent la forme de la sphère dans laquelle ils vivent. C'est pourquoi chaque être humain a son caractère, sa personnalité et ses comportements. Nous ne nous ressemblons pas tous. Chacun a son identité, chacun a ses valeurs, chacun a ses cultures, chacun a ses comportements, chacun a son mode de pensée, etc. Mais le but de Dieu n'est pas que nous soyons ce que nous sommes. Le but de Dieu n'est pas que nous puissions avoir nos valeurs, nos lois, nos cultures, notre éducation, notre mode de pensée, notre système de fonctionnement. Le but de Dieu n'est pas que nous puissions être ce que nous sommes ou ce que nos parents ont fait de nous ou ce que la société a fait de nous ou ce que l'école, l'éducation ont fait de nous. Le but de Dieu, c'est que nous puissions quitter l'état dans lequel nous sommes pour avoir un autre état que seul lui, Dieu, veut nous donner. La Bible déclare que Dieu nous a créés pour être à son image et à sa ressemblance. Alors, le péché nous a amené à développer nos propres lois, nos propres valeurs, notre propre culture, notre propre éducation, notre propre mode de pensée. Et nous fonctionnons d'une certaine manière dans le cadre d'une société qui n'est pas toujours la manière sur laquelle Dieu veut que nous puissions fonctionner. Ça va pour tout le monde. Nous avons reçu des éducations, des cultures, des valeurs, des informations, des enseignements, des moralités qui ne sont pas toujours des moralités que Dieu veut que nous puissions avoir. Comme pouvait le dire quelqu'un, la vie forme. L'école déforme, mais c'est Christ qui transforme. Alléluia! Donc, la vie nous a donné une forme. Avec ses lois, ses valeurs, son système et tout le reste. Ça, c'est la vie. La vie intègre la société, nos voisins, tout ce qu'on apprend à la rue. La vie, c'est quoi? C'est les médias. Toute cette masse d'informations que nous renvoient les médias. La vie, c'est quoi? C'est cette éducation que nous-mêmes, nous nous forgeons aussi. Dans la rue, par notre propre instruction. Par la littérature, nos tendances livresques, nos goûts en matière de littérature et tout le reste, tout ce que nous avons lire, tout ce que nous pouvons aimer écouter, tout ce que nous pouvons aimer visualiser, visionner. Amen. La vie aussi, c'est notre famille. Donc, notre éducation familiale, notre milieu culturel, La vie, c'est aussi notre société, notre pays, notre contexte, en tant que Français, en tant que Gabonais, en tant qu'Africain, en tant qu'Européen, en tant qu'Occidentaux. La vie, c'est aussi l'école dans laquelle nous sommes partis, avec toutes ces sciences, ces philosophies, qui ne sont pas toujours en conformité avec les valeurs de la Bible. Et donc, le moule de la vie nous a donné une forme qui nous a déformés, contrairement à l'image originelle que Dieu a voulu donner à l'homme dès le commencement. Ça va tout le monde. Donc jusqu'à présent, l'homme, dans sa nature, en tant qu'homme, a un état qui n'est pas l'état dans lequel Dieu veut qu'il puisse être. Nous sommes aujourd'hui ce que la société a voulu faire de nous. Et nous avons revêtu la forme que le moule de la société nous a donnée. Ça va tout le monde. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que nous sommes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu à l'état où nous sommes aujourd'hui? Ça, c'est la question que tout être humain devait se poser. Parce qu'elle déclare dans le livre de Genèse que Dieu a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. Ça veut dire que si aujourd'hui l'homme n'arrive pas à dominer et à gouverner la terre, c'est parce qu'en réalité l'homme n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comme il n'a pas la forme que Dieu veut qu'il puisse avoir, alors il n'a pas le pouvoir nécessaire, il n'a pas la capacité nécessaire, il n'a pas le profil nécessaire pour être au trône de la royauté que Dieu a voulu donner depuis le commencement et avoir le sceptre de la royauté, l'autorité sur les nations de la terre afin de pouvoir les gouverner. Alors l'homme se retrouve dans une situation où, au lieu que ce soit lui qui domine, c'est plutôt ce monde qui finalement domine sur lui. À défaut d'avoir la forme que Dieu voulait qu'il ait au départ, l'homme a finalement la forme que le monde lui donne. En d'autres termes, au lieu que ce soit l'homme qui domine sur le monde, finalement c'est le monde et son système qui domine sur l'homme. Et partant de ce constat, nous comprenons finalement pourquoi il y a nécessité, il y a besoin d'être transformé. Alléluia! Il y a besoin. Et le besoin, il est urgent et il est nécessaire. Il est vital. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens, venir à l'église avec la forme que la société nous a donnée, avec la forme que le monde nous a donnée, avec la forme et l'identité que le monde nous a donnée, que notre culture nous a donnée, que notre éducation nous a donnée, que notre famille nous a donnée, que l'école nous a donnée, que notre propre instruction nous a donnée. Nous ne pouvons pas rentrer dans le moule de Christ avec cette forme-là. D'où la nécessité et le besoin urgent, si nous voulons rentrer dans la sphère de sa présence, c'est-à-dire dans son royaume, d'être transformé. Parce qu'il n'y a que ceux qui accepteront d'être transformés qui pourront entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia! Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec la forme que le monde nous a donnée. Impossible. Parce que le royaume de Dieu a sa forme. Quand vous achetez une chaussure, vous vous assurez que cette chaussure est à votre pointure. Sinon, le pied ne rentre pas. C'est pareil. Nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la sphère de la présence de Dieu, où sa volonté est respectée et accomplie avec la forme que le monde nous a donnée. Alléluia! Le monde a ses lois, le monde a ses valeurs, le monde a son système, le monde a son mode de pensée. Mais avec tout ça, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, le besoin d'être transformé est urgent et évident. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, verset 23, Jésus dit, lorsqu'il se retourne vers Pierre, il dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, les pensées de ce monde sont des pensées humaines, et les pensées de l'homme sont les pensées du diable. Donc, les pensées, le mode de pensée que le monde nous a donné est opposé au mode de pensée de Dieu. Amen. Et c'est Marc, l'évangéliste Marc, qui explique mieux ça. Il dit, lui, dans le chapitre 8, verset 33, que Jésus se retournant, regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Le monde ne peut pas concevoir les choses de Dieu. » Alléluia. Et Isaïe, chapitre 55, verset 8, nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel, et vos voix ne sont pas mes voix. » Alléluia. Conclusion, la forme que le monde nous donne nous permet de ressembler à tout, sauf à Dieu. D'où donc la nécessité pour nous en tant que chrétiens de chercher à ressembler à Dieu, à ressembler à Christ. Et c'est ça, c'est là vraiment le cœur de notre enseignement ce soir, la transformation. Amen. Donc, J'aimerais terminer cet enseignement en vous partageant 5 principes essentiels qui nous permettent de comprendre comment Dieu veut nous transformer et qui nous permettront d'être transformés en tant que chrétiens. Souvenez-vous que je suis en train de vous parler de la loi de la transformation. Dans la loi de la transformation, nous allons étudier 5 principes essentiels qui vont nous permettre d'être transformés à l'image de Christ. Alléluia! Et de pouvoir ressembler à Christ, à Dieu. Parce que c'est sa pensée et sa volonté originelle que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Comment faire pour être transformé? C'est-à-dire changer de forme. C'est-à-dire revêtir la forme de Christ. Et être à l'image de Dieu. Nous allons essayer de répondre à cette question. Premier principe. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous permettra d'établir le premier principe qui nous enseigne la loi de la transformation. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, premier principe à établir, c'est que pour être transformé, il faut être en Christ. Car celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. La Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. La Bible ne dit pas qu'il devient une créature améliorée. Et c'est ça, justement, l'inconvénient avec le changement. Le changement nous aide à nous améliorer sur l'analyse de nos points forts et nos points faibles. À partir d'une critique de nos points faibles et de nos points forts, nous sommes amenés à un changement, donc à une amélioration. Ça veut dire qu'en réalité, nous restons la même personne, mais nous ajoutons simplement quelque chose qui nous permet de changer et de nous améliorer afin de nous adapter dans le milieu dans lequel nous nous trouvons pour mieux communiquer avec notre société et mieux développer le relationnel avec les autres. Alléluia! La transformation est différente de l'amélioration. Parce que la Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre. Nouvelle créature veut dire que Dieu a créé un autre homme. Alléluia! L'homme que Dieu a créé au départ, qui a été corrompu par le péché et qui avait une nature pécheresse, devient quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cette personne-là n'existe plus. Elle est morte. Elle est morte dans son péché. Elle est morte. Elle n'existe plus. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Alléluia! C'est une personne différente. Et c'est pourquoi il déclare que c'est une nouvelle créature. Dieu crée quelqu'un de nouveau. Dieu crée un nouveau Bernard. Dieu crée une nouvelle Christine. Dieu crée un nouveau André. C'est une personne tout à fait nouvelle. Et c'est ça le processus de la transformation. Dieu crée quelqu'un de nouveau. Alléluia! C'est-à-dire que Dieu te ramène dans le jardin d'Éden. Il te replace dans ce jardin. Et il refait une nouvelle pâte avec une nouvelle terre. Alléluia! Et il prend cette terre, il donne une forme nouvelle et il souffle un souffle nouveau dans les narines de cette nouvelle forme. Et cette personne devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dieu crée une nouvelle personne. Alléluia! Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit nouveau et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit nouveau et vous vivrez. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37 verset 5 à 6. Alléluia. Et c'est ça la transformation. Dieu crée. C'est-à-dire que Dieu va au-delà d'un simple changement, une simple amélioration. Dieu va jusqu'à toucher l'identité de la personne. Dieu va jusqu'à détruire la première identité, ses origines, ses liens ancestraux, ses liens familiaux, ses liens avec la société, ses liens avec son éducation, ses liens avec sa culture, ses liens avec ses enseignements, ses informations qu'il a pu recevoir des parts d'autres, ses liens avec toute sa culture et toutes ses valeurs, et ses lois et son système de fonctionnement, son mode de pensée et son mode de fonctionnement. Dieu détruit cette structure. Il la détruit complètement. Et cette personne meurt. Alléluia! Par l'œuvre de la croix, elle meurt complètement. Et alors Dieu prend une nouvelle patte, une nouvelle terre, et forme une nouvelle personne, un nouvel être, un nouvel individu. Et Dieu souffle un souffle nouveau dans les narines de cette personne. Et cette personne devient une créature nouvelle. Alléluia! Dieu crée un être nouveau. Et ça n'est possible que si nous venons en Christ. Et le premier principe pour être transformé, c'est qu'il faut être en Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia! Il n'est pas une créature améliorée, mais il est une créature nouvelle. Mais c'est quoi être en Christ? C'est une très bonne question que nous pouvons nous poser. C'est quoi être en Christ? Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 56, la Bible déclare que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Jean, chapitre 15, verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Être en Christ, c'est simplement demeurer en Christ. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa parole. Parce que dans le même chapitre, dans le même passage de Jean chapitre 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia! Donc, demeurer en Christ, être en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Et sa parole demeure en vous. C'est demeurer dans sa présence. C'est intégrer la sphère de sa présence. C'est rentrer dans la sphère de la présence de Dieu. C'est intégrer en nous l'identité de Christ, les valeurs de Christ, les conceptions de Christ, les pensées de Christ, revêtir les sentiments qui sont en Christ. Alléluia! C'est revêtir la nature de Christ. C'est ça être en Christ. C'est que entre notre personne et la personne de Dieu, il y a fusion. Entre nos émotions et les émotions de Dieu, il y a fusion. Entre les sentiments de Christ et nos sentiments, il y a fusion. Car il est dit, ayant en vous les sentiments qui sont en Christ. Alléluia! Ça veut dire qu'on intègre dans notre vie l'identité de Christ, ses valeurs, ses principes, ses lois, son mode de pensée, son mode de fonctionnement, sa culture, la culture de Dieu. La culture de Dieu, pas la culture de notre pays. Parce qu'en Afrique, nous avons notre culture, nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos conceptions, que je ne pourrais pas citer. Et c'est ça qui détermine nos comportements, nos agissements. Nous sommes ce que notre société africaine nous a donné. Avec ses croyances, avec ses valeurs, avec ses lois. Ça c'est notre culture. Mais notre culture n'est pas la culture de Dieu. La culture de mon pays, de mon continent, n'est pas la culture de Dieu. Alléluia! Donc, être en Christ, c'est aussi être dans la culture de Christ. Alléluia! En tant que Français, vous avez votre culture aussi, vous avez vos valeurs, vous avez vos lois, vous avez votre système. Alléluia! Mais votre système, vos valeurs, votre culture n'est pas la culture de Dieu, n'est pas la culture de la Bible. Et donc, la première chose, le premier principe pour être transformé, c'est que vous devez mettre de côté vos cultures. Nous devons mettre de côté nos cultures, les cultures de nos pays, de nos familles et tout le reste, de nos continents, de notre société, pour intégrer la culture de Christ. C'est ça aussi être en Christ. Amen. Intégrer ses valeurs dans notre vie. Amen, amen. Le deuxième principe à établir, c'est dans Romains chapitre 12, verset 1. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxième principe, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Le siècle présent a sa mode, a son système, a ses valeurs. Non seulement, premièrement, nous devons être en Christ, mais deuxièmement, nous devons éviter de ressembler à ce monde. Parce que étant en Christ, nous faisons partie d'un monde à part. Il a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire qu'il y a cohabitation de deux mondes différents, de deux systèmes différents, de deux modes de pensée différents, de deux systèmes de valeurs différents, de deux modes de pensée différents, de deux royaumes différents. Alléluia! Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable qui est à côté, le royaume de Satan. Amen, amen! Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire que n'allez pas chercher les choses qui existent dans ce monde pour les amener dans le monde auquel vous appartenez. Parce qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Ne faites pas des attelages disparaître. Ne faites pas de mélange. Alléluia! Soyez purs, sans mélange. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'adoptez pas les comportements de ce siècle. N'adoptez pas les attitudes de ce siècle. N'adoptez pas leur système de valeurs. N'adoptez pas leur mode de pensée. Refusez. Refusez ces choses. Ça veut aussi dire, ne vous laissez pas influencer par le système de ce monde et ses valeurs aussi. Ne vous laissez pas influencer. Que ce monde et son système n'aient aucun impact sur votre foi. Amen. C'est ce que ça veut dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que, en agissant ainsi, vous laissez libre cours au Saint-Esprit de transformer votre intelligence par un processus de renouvellement. Un renouvellement qui est à l'image de la gloire de Christ. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Et nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Amen. Principe numéro 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Principe numéro 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, principe numéro 3, soyez obéissants. Pour que vous puissiez parvenir à ne pas vous conformer à ce monde et à ses convoitises, il faut que vous soyez obéissants. Parce que si vous n'êtes pas obéissants, vous ne serez pas capable d'éviter de vous conformer à ce siècle présent. Vous ne serez pas capable d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Donc, vous avez besoin d'être obéissant. Obéissant à quoi? Obéissant aux lois que Dieu a établies. Obéissant à sa parole. Obéissant aux principes de Dieu. Donc, vous devez lire la parole de Dieu pour découvrir quelle est la volonté, ce qui est bon pour le Seigneur, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. Vous devez développer une relation de communion personnelle et plus intime et plus profonde un peu plus chaque jour avec Dieu pour connaître quelle est sa volonté, quelle est sa pensée, qu'est-ce qu'il attend de vous afin que vous puissiez obéir à sa volonté. C'est en obéissant à la volonté de Dieu qu'en ce moment-là, vous serez capable de ne pas vous conformer au siècle présent. Dieu vous donnera la capacité de ne pas vous conformer au siècle présent. Vous recevrez la force nécessaire pour résister aux convoitises de ce monde. Alléluia! Et vous pourrez être capable de ressembler à Christ, avoir l'image de Dieu. Avant dernier principe, principe numéro 4, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Donc, principe numéro 4, nous devons soumettre notre système de pensée à l'autorité de Christ et à celle de sa parole. Amen. Donc c'est avant tout un combat spirituel. Nous devons être capables de soumettre notre système de pensée, notre mode de pensée à l'autorité de Christ et à l'autorité de sa parole. En ramenant toute pensée captive à l'obéissance à Christ, en renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans notre vie. Amen. C'est d'abord donc un combat spirituel avant tout. Et ça c'est un principe important, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, les princes du monde, les puissances des ténèbres, et contre les esprits méchants qui agissent dans l'air et dans l'espace. Le combat il est spirituel. C'est pourquoi en tant que leader, vous devez comprendre ce qui se passe dans la sphère dans laquelle Dieu vous a donné de régner et d'influencer. Si vous n'arrivez pas à exercer votre domination dans la sphère dans laquelle Dieu vous a donné de dominer, d'influencer, c'est que vous devez comprendre qu'il y a des hauteurs et des forces qui s'adressent contre la connaissance de Christ dans cette sphère. Et que vous devez ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Dieu nous a établi en tant qu'autorité spirituelle, gardien des âmes. En tant que leader, nous sommes gardiens des âmes. Et nous devons comprendre les comportements des âmes. Nous devons étudier les comportements des âmes. Comprendre pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière. Savoir discerner au travers des comportements, au travers des attitudes, au travers des agissements des uns des autres, l'esprit qui se cache derrière. Et dans la prière, dans le combat spirituel, être capable de ramener tout esprit à l'obéissance, à la soumission, à l'autorité de Christ. Alléluia! Parce que vous allez remarquer qu'en tant que leader dans vos églises, vous aurez à beau parler, à beau prêcher, à beau enseigner, mais il n'y a aucune transformation, aucun changement de comportement. Mais les gens sont toujours les mêmes. Et vous avez l'impression que les messages que vous donnez sont comme des messages supplémentaires, mais qui ne servent à rien. À la limite même encore, vos enseignements les rendent plus rebelles. Pourquoi? Parce que au-dedans d'eux et derrière eux, il y a des esprits qui combattent votre enseignement et qui les empêchent de connaître Christ, d'accéder à la révélation de Christ. Il y a des pasteurs qui se plaignent. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas quand on leur parle, par exemple, du principe du donner, la loi de la semence, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à donner leurs offrandes à Dieu. Ils n'arrivent pas à donner leurs dîmes au Seigneur. Pourquoi mon église n'arrive pas à accepter cette loi spirituelle que je leur enseigne? Il y a des pasteurs qui sont confrontés à un problème d'autorité. Et c'est très courant en ce moment. Oui, pourquoi les gens ne me respectent pas dans mon église? Pourquoi les gens que je dirige me traitent comme si je n'étais pas leur pasteur? Il y a un manque d'obéissance, un manque de soumission à l'autorité. Pourquoi? Mais la Bible nous enseigne qu'il y a des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ. Il y a des raisonnements des hommes, des pensées diaboliques. Il y a des esprits qui agissent. Et donc, en tant que leader, nous devons savoir discerner les temps et les saisons, discerner les comportements, discerner les esprits, discerner le mode de pensée, discerner les attitudes et les agissements des gens que nous dirigeons. Et savoir déceler au travers de leur vie les esprits qui se cachent derrière et les combattre dans la prière. Alléluia! C'est pourquoi les apôtres ont dit, il n'est pas normal que nous puissions nous occuper des choses de l'étable. On va laisser cette charge à d'autres personnes. Parce que nous avons besoin de suffisamment de temps pour consacrer notre vie dans le ministère de la parole et de la prière. Parce que les deux vont de pair. Le ministère de la parole va de pair avec le ministère de la prière. Avant de venir prêcher, il faut d'abord prier. Parce que quand nous venons prêcher, nous déclarons des vérités. C'est un combat spirituel au travers de la parole de Dieu. Nous exerçons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous attaquons des forteresses. Nous attaquons des esprits qui sont là, peut-être enracinés dans la vie des gens, dans leur pensée, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur être tout entier, depuis des générations, depuis des années durant, depuis des siècles. Leur attitude, leur comportement tirent leurs origines depuis peut-être des générations bien lointaines, des siècles en arrière. Donc quand nous venons parler ici, en fait, vous devez comprendre que la prédication, ce n'est pas un simple fait de venir parler devant, derrière une chaire, apporter un enseignement ou apporter une parole. Non, non. C'est pourquoi elle déclare que faut pas qu'il y ait plusieurs personnes qui enseignent. Parce que c'est un appel, c'est un ministère qui nécessite d'être revêtu d'une onction spéciale. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on pense que tout le monde peut venir enseigner ici derrière la chaire. C'est pas vrai. Parce qu'elle déclare qu'il faut pas qu'il y ait plusieurs qui enseignent. Et c'est pas donné à n'importe qui de venir tenir le micro derrière la chaire et d'enseigner. C'est pas, parce que, en fait, ceux qui le font doivent être investis d'une autorité spirituelle pour briser les forteresses dans les pensées et tout raisonnement hautain afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Ils doivent être investis d'une autorité spirituelle et divine. Ils doivent avoir une onction qui brise les jougs. Alléluia! C'est un ministère, le ministère de la parole. Et ce ministère est soutenu par le ministère de la prière. Parce que sans la prière, tout ce que vous pouvez déclarer ici n'est rien. Ce n'est que de l'eau sur le dos du canard. Vous jetez des perles au pourceau. Et vous endurcissez même par votre enseignement les cœurs. Pas parce que votre enseignement est faux, mais parce que vous jetez des perles au pourceau. Vous libérez des révélations qui tombent sur une terre sèche, aride, qui ne la reçoit pas. Vous gaspillez le trésor de Dieu. C'est pourquoi il est important qu'en tant que leader, nous puissions préparer le peuple et le cœur du peuple dans la prière avant de venir libérer un message. Afin que lorsque nous libérons le message, la terre soit fertile et qu'elle porte du fruit. Que le sol soit débarrassé des épines et des ronces et des cailloux, de tout aspect rocailleux. Alléluia! Et ce n'est que de la sorte que nous pourrons arriver à la transformation. Alléluia! Et le dernier principe que j'aimerais établir, pour terminer avec cet enseignement, se trouve dans Jean chapitre 3, verset 3. Elle déclare qu'en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le dernier principe que j'aimerais établir, c'est le principe de la naissance de l'esprit. Il y a, dans ce passage, deux choses distinctes. Il y a d'abord la nouvelle naissance. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance nous permet simplement de voir le royaume de Dieu. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous soyons nés d'eau et d'esprit. Deux choses différentes. Il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens dans nos assemblées sont nés de nouveau. C'est très bien. Et ils viennent à l'église. Ils chantent des cantiques. Ils louent le Seigneur. Ils sont nés de nouveau. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la nouvelle naissance ne nous permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance nous permet simplement de voir le royaume de Dieu. De regarder à distance. Nous pouvons goûter au bienfait de Dieu. Nous pouvons connaître Dieu, mais dans une relation distancée. éloigné de Dieu. Moïse n'est pas rentré à la terre promise. Il a vu la terre promise à distance. Il n'est pas entré. Alléluia! La nouvelle naissance ne nous permet pas de rentrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance nous permet seulement de voir le royaume de Dieu. Donc de voir des signes, le royaume de Dieu. Le miracle, la guérison, la délivrance, gloire à Dieu. Nous voyons que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous voyons simplement, nous contemplons, nous voyons la manifestation du royaume de Dieu. Nous voyons, mais nous ne pouvons pas entrer dans ce royaume si nous ne sommes pas nés d'eau et d'esprit. Alléluia! C'est une vérité fondamentale. Et si nous voulons parvenir à la dimension de transformation, il nous faut intégrer ce principe dans notre vie. Naître de nouveau est une chose, mais naître d'eau et d'esprit en est une autre. Parce que naître de nouveau ne nous permet pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Il nous permet seulement de voir le royaume de Dieu. Et beaucoup d'entre nous avons vu le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons vu des merveilles de Dieu dans notre vie. Oh, le Seigneur a pourvu à de nombreux besoins. Le Seigneur nous a délivré de nombreuses situations. Le Seigneur nous a guéri peut-être d'une maladie. Le Seigneur nous a délivré d'un démon. Gloire à Dieu. En fait, on est encore au stade de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est simplement la naissance de notre esprit qui était mort par le péché dans le jardin d'Éden. Et donc, la naissance ou la renaissance de nos sens qui étaient morts. Nous retrouvons les cinq sens qui renaissent. Le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goûter, le sens du toucher. Parce que, au travers du péché, nos cinq sens ont été corrompus. Et comme je vous l'ai déjà enseigné ici, le péché est rentré dans la nature humaine au travers des cinq sens. La Bible déclare que la femme a écouté le diable, Satan parler. Elle a écouté, donc c'est rentré par les oreilles. Elle vit que l'arbre était bon à manger, donc elle a vu par ses yeux. Donc le sens de la vue. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclare qu'elle vit que c'était agréable. Donc on sous-entend que c'était agréable, puisque le mot agréable nous révèle la notion de l'odeur. Elle déclare que lorsque nous offrons à Dieu un parfum, que ce soit un parfum d'une odeur agréable. Donc si Dieu sait que notre parfum est agréable, c'est parce que il sent l'odeur de ce parfum. Donc la notion d'agréable dont il est fait allusion dans le jardin d'Éden ici par rapport à la femme peut nous amener à comprendre que cet arbre avait certainement une odeur qui a permis à la femme de voir que c'était agréable. Alléluia! Donc le péché aussi est rentré par l'odorat, le sens de l'odorat. Mais la femme ne s'est pas arrêtée là. La Bible déclare qu'elle prit de son fruit, donc le toucher. Amen. Et elle en mangea, le goûter. Le péché est rentré dans la nature humaine par les cinq sens. Et donc à partir de ce jour, la nature humaine a été corrompue. Notre esprit est mort. Donc les cinq sens spirituels de notre esprit aussi sont morts. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc dans cet état, l'homme ne pouvait pas voir la gloire de Dieu parce que ses yeux spirituels étaient fermés. L'homme ne pouvait pas avoir la révélation des mystères du royaume parce que ses yeux spirituels étaient fermés. L'homme ne pouvait pas annoncer les oracles de Dieu par sa bouche parce que sa bouche était souillée. Il ne pouvait pas donc être la voix de l'Éternel aux nations. Alléluia. L'homme ne pouvait pas exercer le ministère auquel Dieu l'appelait pour gouverner sur la terre parce que ses mains étaient corrompues par le péché. L'homme ne pouvait plus entendre la voix de Dieu parce que le sens de lui était mort, était fermé, était bouché par le péché. Donc ses oreilles spirituelles étaient bouchées, étaient fermées. Donc la nouvelle naissance nous permet simplement de retrouver nos cinq sens spirituels et nous permettre donc de retrouver la capacité à voir la gloire de Dieu, la capacité à entendre la voix de Dieu, la capacité à toucher les mystères de Dieu, à toucher la puissance de Dieu par nos mains. Alléluia! La capacité de pouvoir parler de la part de Dieu, annoncer les oracles de Dieu. La nouvelle naissance nous permet simplement de retrouver nos capacités spirituelles, nos sens spirituels. Par contre, pour rentrer dans le royaume de Dieu, la Bible déclare que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia! Alléluia! Et naître d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Naître d'eau, l'eau, c'est le symbole du baptême. Mais le baptême de quoi? Le baptême de la repentance. Donc, repentance veut dire transformation. Transformation, changement de notre conception, de nos mentalités, de notre mode de pensée, notre système de vie jusqu'à ce jour, de nos cultures, de nos traditions. Donc, la naissance de l'eau par l'eau du baptême, en fait, nous devons matérialiser la repentance qui s'est faite sur le plan intérieur, donc la transformation intérieure de notre système intérieur, de notre mode de pensée même. Métanoïa, transformation, changement intérieur. L'eau du baptême, le baptême de la repentance. En d'autres termes, c'est l'eau de la transformation. Alléluia! Laquelle transformation ne peut s'opérer que par l'eau de la parole? Parce que c'est l'eau de la parole qui nous lave. Alléluia! Alléluia! Parce que c'est dans la parole qu'il y a le mode de pensée de Dieu, le mode de fonctionnement de Dieu, le système de valeurs que Dieu a lui-même, son système de valeurs. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la révélation de l'image parfaite de Dieu, de Christ. Et donc, ce n'est qu'au travers du miroir de la parole de Dieu que nous pouvons nous comparer pour voir si notre vie correspond réellement à l'image de Dieu. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pouvons être transformés à l'image de Dieu, c'est-à-dire changer, quitter notre état actuel pour adopter l'état de l'image de Dieu que la parole de Dieu nous révèle au travers du miroir. Alléluia! Et c'est pourquoi il est dit donc que nous sommes transformés par l'Esprit de gloire en gloire, par Dieu, par l'Esprit de Dieu, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ. Alléluia! La parole de Dieu nous transforme. Donc naître d'eau, c'est naître de l'eau, du baptême de la repentance, mais c'est aussi se laisser transformer par l'eau de la parole de Christ, afin d'atteindre la mesure, la stature parfaite de Christ, et de pouvoir ressembler à Christ, être à son image et à sa ressemblance. Alléluia! Mais Jésus dit aussi, un homme ne naît d'esprit. Naître d'esprit, c'est quoi? La naissance de l'esprit, c'est en fait lorsque nous recevons l'esprit de Dieu dans notre être intérieur. L'esprit de Dieu rentre en contact avec l'esprit de l'homme, lequel esprit de l'homme a été déformé par le système des valeurs de ce monde, par la culture de ce monde, par les lois de ce monde, par son système, son mode de fonctionnement. Cet esprit qui a été formaté à l'image de notre société, à l'image de ce monde, qui n'a plus la ressemblance de Dieu, qui a perdu l'image de Christ, l'image originelle. Alors cet esprit-là doit renaître, c'est-à-dire doit retrouver la forme que Dieu a voulu lui donner depuis le commencement. Alléluia! D'où le fait que lorsque nous sommes nés d'esprit, l'Esprit de Dieu entre dans notre esprit, rentre en contact avec notre esprit et communique à notre esprit la vie de Dieu. Alléluia! Et il se déclenche à partir de ce moment un processus spirituel de transformation qui va amener notre esprit à changer de forme, à laisser cette forme mauvaise que le péché et ce monde nous a donnée pour adopter la forme de Christ, l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia! Et c'est un processus qui est progressif, qui n'est pas spontané. C'est un processus qui ne peut être possible qu'au travers de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, du jeûne, de la prière, de l'adoration et de toute autre forme de discipline spirituelle que nous enseigne la parole de Dieu. Toutes ces choses-là nous permettent simplement, en fait, de retrouver l'image de Dieu. Toutes ces choses permettent simplement à notre esprit de ressembler à Dieu parce que Dieu est esprit et il veut que nous puissions être esprit comme lui l'esprit. Alléluia! Et que notre esprit soit à l'image de son esprit, à sa ressemblance. Et ce n'est que de la sorte que nous pourrons être capables de lui rendre un culte agréable. Car il faut que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, si nous voulons rendre un culte agréable à Dieu, le culte qui est agréable à Dieu est un culte qui est rendu par des esprits qui sont des esprits à l'image de Dieu. Alléluia, à sa ressemblance. C'est que ça veut dire des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire des esprits, des hommes qui ont été transformés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia, qui ont revêtu la forme et l'image de Dieu. Et ces esprits-là peuvent rendre un culte à Dieu. Dieu sera content. Alléluia. Dieu va agréer ce culte. Alléluia. Dieu va agréer leur adoration. Dieu va agréer leur louange. Dieu va agréer leur sacrifice. Dieu va agréer leur service. Alléluia. Mais il faut au préalable que notre esprit ressemble à l'esprit de Dieu.